I'm not surprised, motherfuckers.
Et bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 113 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, on parle de UFC 296, dernier pay-per-view de l'année pour l'organisation reine du MMA mondial. Carte pas mal sur le papier, du moins au niveau des combattants, pas forcément des combats. Je trouve que les match-up n'étaient pas non plus les plus excitants, mais il y a quand même eu du beau monde sur cette carte. Il s'est passé de belles choses, d'autres moins belles choses aussi. Je vais me concentrer aujourd'hui uniquement sur la main card. Si jamais vous avez de l'intérêt pour les early prelims, et pour les prelims, évidemment je vous conseille d'aller voir les combats, hein. J'ai vu que Cody Garbrandt avait fait un retour gagnant avec de la boxe classique de l'ancien boxeur, justement Cody Garbrandt. Et j'ai vu aussi que malheureusement King Casey O'Neill a perdu face à Ariane Lipski, hein. Bon, bravo à Ariane Lipski pour sa soumission, mais dur pour King Casey O'Neill qui en est à deux défaites de suite depuis son retour après sa grave blessure au genou. Elle qui est toujours un prospect, il ne faut absolument pas enterrer quelqu'un après deux défaites, surtout à un jeune âge comme le sien, ce serait vraiment très présomptueux, mais c'est dur pour la suite, pour elle quand même, parce qu'elle revient vraiment en arrière suite à cette défaite. Je lui souhaite évidemment que du bien pour la suite. J'espère qu'on la reverra très vite. Et bravo à Ariane Lipski, hein, qui, elle, a su profiter de l'occasion. Évidemment, si vous voulez écouter des podcasts sur ces combats-là, je vous conseille d'aller du côté de chez Café Crème Sport, qui, je pense, en parlera lors de son épisode sur le UFC 296. Fonçons directement sur le combat qui a été bumpé sur la main card, à savoir Bryce Mitchell versus Josh Emmett. Combat qui a été bumpé sur la main card parce que malheureusement on a eu un abandon de la part de Ian Garry qui a dû annuler son combat malheureusement pour une pneumonie qui l'a traîné depuis apparemment des semaines. Ça fait chier parce qu'on voulait absolument revoir Ian Garry. Face à Luque, c'est sûr que ça aurait pu être un beau combat parce que Luque est très tough, parce qu'il a du power dans les mains et parce que Garry, lui, s'est fait connecter plusieurs fois. Et puis je trouve qu'il a pas mal progressé au fur et à mesure de ses combats. Par rapport à son premier combat à l'UFC, il y avait eu pas mal de progrès. Donc c'est con, mais on le reverra bientôt. Luque aussi, je pense. Passons donc direct au premier combat. Bryce Mitchell versus Josh Emmett. Bryce Mitchell qui s'était bien remis de sa défaite face à Topuria après avoir gagné 3 rounds de la main face à Dan Ige, où il avait pu montrer toute l'étendue de ses talents de grappleur. En tout cas, il avait gagné le combat vraiment grâce à sa spécialité. Et là, face à Emmett, c'est vraiment un clash des genres, hein, entre les deux, avec un gros cogneur face à un grappleur de haut vol, peut-être le meilleur grappleur de la division featherweight. C'est dur à confirmer parce que, évidemment, depuis sa grosse défaite face à Topuria, on a moins vu Bryce Mitchell. C'est normal. Il faut qu'il se reconstruise, qu'il reparte sur une bonne série, etc. Son jeune âge, son talent et puis aussi tous les espoirs qu'il y a en lui. C'est important de bien réfléchir aux prochaines étapes. Ça s'est absolument passé pas comme prévu, hein, pour Bryce Mitchell. Je pense que on commençait à voir vraiment les limites de Josh Emmett face au cador de la KT. Hein, on l'a vu contre Yair. Là, évidemment, ça redescend un peu pour Josh Emmett et puis ça redescend du pareil pour Mitchell. Donc ça faisait du sens, hein, au niveau du match-up à 100%. Celui-là, c'est vraiment pas le genre de match-up sur lequel je vais cracher. Ça faisait 100% du sens au niveau du classement, au niveau de la montée des deux gars, etc. Ce qu'on voyait pour Josh Emmett au niveau de la limite, justement, de son MMA, c'est que c'est un combattant qui est très, très unidimensionnel, comme disent les gens. C'est quelqu'un qui a un overhand, une grosse droite, et c'est pas mal tout ça. Qui a des déplacements assez chiants, hein. Très, très MMA quand même, avec genre le dos un peu courbé, la tête un peu en bas, le menton rentré, puis des fuites en avant avec des grosses droites et des overhands. Mitchell a voulu pousser contre la grille dès le début. Je pense que son game plan, c'était pousse-le contre la grille, shoot au bon moment, travaille, mets-le au sol, termine-le. Aussi simple que ça. Emmett, lui, variait un peu au niveau, variait les niveaux dans ses approches, hein, vu que c'est très unidimensionnel. Pardon. La moindre chose qu'il ait à faire, quand même, c'est genre faire du haut-bas. Ce qu'il a fait, et ça a été vraiment uniquement lancer cette main droite. Hein, cette approche-là, pareil que pour Mitchell, c'était un game plan, je pense, pour Josh Emmett. C'est change un peu les niveaux et puis cet overhand va bien passer, rien d'autre. Mitchell forcément reste un peu prudent, il essaye de miroirer les déplacements de Josh Emmett, mais malheureusement, hein, il aura suffi, comme je vous dis, d'une feinte un peu de haut bas auparavant pour rendre un peu Mitchell confus, je sais pas, parce qu'il est, il a foncé, mais il a avancé vraiment, genre la tête en avant, menton en avant, face en avant. Il n'y a pas eu assez de il n'y a pas eu le changement de niveau que je voyais arriver, hein, pour Mitchell, à savoir shooter tout simplement un takedown poussé contre la grille. Là, je l'ai vu un peu avancer vers Josh Emmett et puis il a lancé cet overhand et puis il est arrivé en plein le lampion, pleine face. Et puis bon, vous l'avez tous vu, ce KO, j'imagine. Cormier et Rogan en jouissance sur les convulsions de Mitchell. Oh my god, he's convulsing. Cormier me rend fou des fois, genre à jouir sur les fucking genre situations catastrophiques des perdants, quoi. Ça peut être drôle, hein, mais c'est un peu too much pour moi. Mitchell s'est fait atomiser, quoi. C'est dur parce qu'il s'est fait exploser contre Topuria. Et là, il se fait exploser face à Emmett. C'est deux gros KO, deux sales défaites, hein, dans sa carrière. Lui qui était invaincu, hein, au final, il me pense, jusqu'à Topuria. Et Topuria, c'est un peu le briseur de rêve, ce mec, quoi. Comme Ryan Hall, quand il est arrivé avec sa bonne vieille Inamari Roll pour jeter dans les jambes et essayer d'aller passer des leg locks, quoi. Ça, il l'a fait plusieurs fois. Ryan Hall était invaincu là-dessus. Et puis Topuria, quand il l'a vu essayer de passer plusieurs Inamari Roll, il a dit genre non, mais c'est terminé. C'est terminé pour toi. Et puis il a terminé Ryan Hall en MMA, du moins. Et là, Mitchell s'est fait deux fois terminer. Une fois par Topuria, une fois par Josh Emmett. C'est dur, quoi. Il est jeune, il est très bon en grappling, mais là, on n'a rien vu. C'est 100% la pire chose qui puisse arriver à Mitchell dans ce combat-là, c'est qu'il n'a rien montré, qu'il se fasse éteindre avec un gros overhand de Josh Emmett. Bim, en plein dedans. Ça, l'histoire, parce qu'il va se taper une bonne suspension médicale, je pense. C'est dur, là. C'est dur pour Bryce Mitchell. J'ai pas grand chose de plus à dire. Josh Emmett se relance dans la course, c'est incroyable, parce qu'avec cette victoire sur Bryce Mitchell, c'est obligé qu'il l'ouvre, quoi. Il a 37-38 ans, certes, il a perdu le run jusqu'alors, mais il a quand même le droit de revenir face à un top 5, voire un top 3, quoi. C'est fou, mais il est remonté là. Il est remonté là, et Josh Emmett n'est peut-être pas encore complètement fini. Même si son niveau montre toujours autant de lacunes, là, on ne peut rien dire. Passons au combat suivant, qui est le match-up à chier dont je parlais. Un des match-up pas terribles dont je parlais, et celui-là est particulièrement à chier. C'est Tony Ferguson face à Paddy the Baddy. Alors, le ressenti déjà, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de rythme, que le niveau était faible en général. La technique garde poreuse pour Paddy et garde poreuse pour Tony Ferguson. Cardio mauvais pour Tony, ça allait pas, quoi. On a vu que ça descendait vraiment beaucoup. Énormément de single shot, hein, pour Tony aussi. Alors certes, ça a connecté dans les deux sens, mais c'est surtout Paddy, hein, je trouve, qui a poussé dans le premier. Comme d'habitude, on n'aime pas Tony voir se faire batter, de se faire dévoiter la face, mais bon... C'est comme ça, hein. Maintenant, genre, je veux pas attendre quoi que ce soit de Tony, depuis Gaethje, et depuis Justin Gaethje, il est vraiment brisé, quoi, parce que là, il s'est vraiment pris la première grosse punition, là où j'ai vraiment eu mal, et maintenant, c'est, depuis plusieurs combats, j'attends pas grand-chose, je vois juste une pente descendante, et absolument rien de positif à sortir de tout ça, c'est vraiment sa tête, c'est un bobblehead, quoi, tu tapes dessus, ça remue dans tous les sens, on passe vraiment proche d'un finish au premier round. Paddy assène vraiment Tony contre la cage, il finira au sol, il survit mais il prend une grosse fessée dans le premier. Je veux pas cracher sur Paddy parce que bon, lui il prend le combat, on lui donne, il le prend, et puis contre un gros nom, entre guillemets, ça va faire du buzz, et voilà, c'est tout ce qu'il a à faire, sachant qu'il a pas le niveau pour être un top 10, je pense, chez les lightweight, Paddy, voire top 15, il prend ce qu'il prend et il fait du business sur ce qu'il a à faire, lui, il fait que faire sa job, je trouve que sa garde est vraiment poreuse, quoi, il prend énormément de coups. Round 2, les entrées de Tony sont vraiment foireuses, même Paddy peut counter sur ses attaques en ligne. Tony a glissé sur un kick aussi, enfin tu sais, c'est que genre quand tout va mal, tout va mal. Paddy va forcément foncer au-dessus, charbonne au-dessus. J'entends les commentateurs, encore une fois, Tony is still dangerous from his back. Et mon cul qu'il est dangereux de son back, quoi. C'est terminé, maintenant c'est Tony la tortue, là. C'est pas Tony le ninja de son dos. Oui, il a envoyé un coude, mais il a tenté des triangles, etc. Mais Paddy est vraiment, jamais vraiment en danger. Tony est éreinté, stacké contre la grille. C'est Paddy qui est au-dessus, c'est Paddy qui gagne. Troisième round, les superbes conseils de David Goggins. Hein, you gotta dig deep, Tony. Mais genre, de où il va diguer deep, Tony Ferguson, dans le troisième, quoi. T'as regardé ses combats avant? Y a rien de deep, hein, y a plus rien de deep chez Tony Ferguson. Tu peux pas creuser profond, hein. La cardio de Tony, là, c'est vraiment le réservoir, pardon, d'une Fiat Panda, et Goggins, il croit qu'il entraîne un Charles Leclerc, quoi. C'est genre, si, vas-y, tu peux y croire, pousse, tu vas aller chercher les dernières énergies en toi. Mais c'est du n'importe quoi. Genre, je sais qu'il y aura des gens qui aiment Goggins, qui m'écoutent, vous écoutez qui vous voulez, vous avez le droit d'aimer qui vous voulez, quoi. Mais ce mec, c'est une fucking fraude d'influence sur les gens. Sur Tony, quoi. Qu'est-ce qu'on a été faire là-dedans? Genre, pourquoi Tony, il a besoin de quelqu'un pour aller lui cramer encore plus de cardio qu'il n'a? Ça sert complètement à rien, quoi. Genre, le gars, genre, entraîne-toi, c'est le mec, c'est fais des Ironman, fais des triathlons, fais des quintathlons, sinon t'es pas un homme. Mais genre, mais arrête, man. C'est un combattant de MMA qui est en train de clamser, et toi, tu l'emmènes au charbon en disant qu'il a encore plus de cardio qu'il pense qu'il n'en a, alors qu'il n'en a absolument pas. Bref. C'est une farce, cette collaboration, une de plus, quoi. Franchement, pour moi, elle n'est pas forcément mieux que entre Joshua et Lopez, quoi. Je sais, vous allez me trouver dégueulasse avec David Goggins, et oui, je suis un gros hater, mais toutes ces conneries, ça fait que enfoncer Tony plus profond qu'il ne l'est, quoi. Il n'a pas besoin d'un fucking influenceur à lui gueuler dessus pour aller courir et lui donner des citations de fucking motivation Instagram. Genre, you gotta stop being a bitch, blablabla. Genre, fuck off, man. C'est Tony Ferguson, le mec, c'est une fucking légende du MMA. Est-ce qu'il a vraiment besoin de toi, quoi? Anyways, c'est fini pour Tony, on le savait avant, etc. Ferguson est cuit, hein, il strike dans les airs. C'est Paddy, c'est guère meilleur. C'est moche dans le troisième round, Paddy aussi. Oh là là, c'est pas beau du tout. Vraiment, Tony est rinté contre la cage. Il est obligé de grappler pour garder une pression au-dessus. Enfin, bref. Enfin, c'est Paddy, pardon, qui est obligé de grappler pour garder de la pression au-dessus, je voulais dire, et finir le round en sécurité. Ce troisième round était une plaie, une purge, surtout avec l'intervention d'un certain homme dans le corner de Tony Ferguson. Entre le 2 et le 3, je vous laisse deviner qui. Ouf, c'était dur, c'était une pénitence, hein. Ce match-up était une pénitence à la base, c'était une pénitence à regarder. Je veux pas voir Tony, je m'en calisse de Paddy de Baddy, et je m'en calisse encore plus de David Goggins, qu'on ne voit plus. Merci tout le monde. On se calme, excusez-moi, c'est la vieillesse, hein. On devient un peu aigri, hein, en vieillissant. Malgré tout, bonne note, hein, pour Paddy, j'adore toujours sa musique d'entrée, j'aime beaucoup. On passe au prochain match-up qui n'était pas le meilleur match-up. Encore une fois, Shapkat versus Wonderboy, ce match-up ne me plaisait guère à l'annonce, hein. J'ai essayé de me hyper aussi sur ce combat-là. J'adore Shapkat, hein, genre depuis qu'il est rentré dans l'UFC, genre son premier combat, etc. Moi, genre, je suis à fond à chaque fois qu'il arrive, parce que je sais qu'on va voir du beau et discipline. Patience, Il y a ce qu'il faut pour aller loin. Pour Shavkat, en plus du talent, évidemment, mais bon, ça, on va pas en parler parce qu'on le connaît, hein, son talent de base. Premier round, beaucoup de taf contre la grille pour Shavkat. Longue séquence, forcément, face à Wonderboy, qui est un peu plus grand que lui. Vraiment une allonge et puis un peu une stance de karatéka avec des kicks de karatéka. T'as pas forcément envie de traîner là-dedans et de rentrer dans ce jeu-là. Du coup, il va vraiment passer du temps à pousser contre la grille. Il travaille tranquillement. Il place vraiment bien sa tête en dessous du menton de Wonderboy. Wonderboy a vraiment du mal. Hein, et il dépensera beaucoup d'énergie dans ces séquences-là. Et puis, évidemment, il montrera ses faiblesses dans ces séquences-là. Mais on sait que Wonderboy, c'est pas le grappleur. Hein, long single leg de la part de Shavkat. Il va garder cette jambe pendant longtemps. Wonderboy parvient à garder une bonne posture, mais sur un échange de genoux, il donnera le body lock au final à Shavkat et il doit le briser derrière. Shavkat pousse toujours. Enfin, je veux dire, c'est ça aussi l'adaptation de Shavkat, c'est que dès qu'il trouve une petite opportunité, Wonderboy va mettre un genou, il laisse un petit peu d'espace, bam, il va les connecter les deux mains derrière. Ça, c'est très très nice, c'est des petits détails, mais c'est ces détails-là qui font les champions. Grosse pression sur les hanches, quelques coups de poing haut et bas, on travaille fort pour Shavkat. On essaie de finir un single leg, Wonderboy défend, on repart en single, on repousse contre la grille. C'est vraiment une sale position pour Wonderboy. Shavkat passe un genou, on varie la game contre la grille. Wonderboy enfin parvient à s'échapper, reprend sa stance de karaté au milieu du ring et time toujours bien ses attaques. Alors certes, c'est rien de révolutionnaire, et puis vous connaissez Wonderboy, vous savez comment il strike, etc. Et il le fait toujours bien de l'âge de ses 40 ans. Round 2, Wonderboy veut toujours être actif au milieu, ses sidekicks sont vraiment pas mal. Évidemment, Shavkat va shooter, hein. Thompson échappe au single leg, mais Shavkat le course contre la grille et sa lutte sévère. Le single leg, ce sera vraiment le gimmick de la soirée pour Shavkat, je trouve qu'il s'en sert bien, du moins pour faire travailler son adversaire. Wonderboy finit par perdre ses moyens sur la défense de ce single leg et finira au sol. Shavkat cherche bien à aplatir Wonderboy, hein. Il attrape le fameux handcuff derrière le dos, la main derrière le dos de Wonderboy qui a le dos collé à la grille. C'est vraiment très très chiant comme position, vous ne pouvez pas utiliser votre main d'appui pour pouvoir bouger, vous pouvez pas shrimper, vous pouvez pas utiliser vos hanches face à la grille, et quand vous êtes Wonderboy, pas le meilleur en grappling, ben c'est vraiment une sale position, même pour un très bon grappleur, c'est une sale position, que ce soit pour la prise de dos ou alors se faire aplatir. Au final, Shavkat va choisir le dos. Wonderboy arrive à sortir de la première fois, mais comme je vous l'ai dit, Shavkat, adaptation, il va aller mettre un peu de ground and pound pour pouvoir mettre, encore une fois, son adversaire dans une sale position. Et cette sale position, ce sera la tortue pour Wonderboy. Shavkat ne met même pas les crochets, il va aller chercher le choke direct. Et dans les 10 dernières secondes, Wonderboy va taper... belle victoire de Shavkat, parce que je vous le dis, c'est vraiment cet aspect adaptation du Kazakh qui me plaît énormément. Hein. Ça, on l'a vu plusieurs fois dans certains combats, c'est que il allait essayer d'aller placer des high kicks, il l'avait préparé, mais il voyait que le plan n'allait pas fonctionner, je ne sais plus contre qui et quel combattant c'était. Il est allé lutter contre la grille et puis il a fini, quoi. Ça, il le fait très bien, et puis quand vous êtes capable de vous adapter comme ça face à différents adversaires, ça vous fait gagner des ceintures, hein, parce que le MMA en 2023, enfin bientôt 2024, c'est un sport complet. C'est très compliqué maintenant d'être unidimensionnel, pardon. J'ai du mal avec ce mot-là, décidément, et de gagner, hein. C'est vraiment dur. Il y en a qui le font, mais c'est vraiment compliqué. Et puis dans les catégories en dessous des gars plus lourds, hein, quand ça commence en welterweight à peu près, on va dire voilà, c'est la complétude qui vous emmènera loin, et ça, Shavkat l'a très très bien. Vous allez peut-être avoir l'impression que je passe un peu au-dessus de ce combat-là, parce que oui, je vous l'ai dit, le match-up ne m'a pas énormément saucé, et je n'ai rien appris vraiment de spécial, je n'ai eu que des confirmations, mais je veux une confirmation contre un autre adversaire, on le verra très bientôt, certainement. Merci Shavkat et merci Wonderboy. On peut passer au co-main event entre les flyweight. Alors les flyweight, ça marche bien en ce moment, les gens les aiment bien, le niveau est très bon, les ceintures tournent, depuis la victoire de Pantoja, le Brésilien, et cette fois-ci face à lui, Brandon Royval, qui, vous avez un très bon groupe hein, dans le top 10 chez les Flyweight. Il y a pas mal tout le monde qui potentiellement aurait sa chance pour un title shot. C'est très bon pour la compétition, c'est très bon pour le niveau, et c'était la chance de Brandon Royval aujourd'hui. Alors ce combat, je vais vous passer round par round, mais il me faut le ressenti de base, c'est que Pantoja est un champion de 1, et de 2, il faut savoir défendre les takedowns quand on sent qu'on va perdre le combat sur ce point précis. Je vais y revenir pendant toute l'analyse. Premier round, Pantoja fonce très très fort, grosse pression sur Royval, des kicks, des points, des combinaisons, de la lutte, tout pendant les 30 premières secondes, ça fonce très très vite. On revient au centre et les échanges de low kicks sont vraiment puissants, on a quelques échanges au milieu, des séquences courtes de clinch. Je trouve que Royval circule pas mal autour de Pantoja, il cherche souvent la solution pour fermer la distance. Pantoja par contre va punir Royval direct dans le clinch hein, avec des genoux et passera directement un takedown contre la grille. Beaucoup d'activité au-dessus, ce sera le fil rouge du combat comme je vous l'ai dit, c'est takedown et puis beaucoup de travail dans la demi-garde. Ça aussi on va en parler de Brandon Royval. Pantoja est obligé de se relever. Royval envoie pas mal de upkicks hein, depuis son dos, il est vraiment assez actif là-dessus. Mais Pantoja pousse très très fort, va au charbon pour essayer de passer cette garde justement en étant debout. Il finira encore une fois dans la mi-garde et passera même en full mount. Ça me paraît un peu trop facile à ce niveau-là. Par contre, je vous avoue, la façon dont il a passé dans la garde de Royval, surtout au premier round, hein, alors que les deux sont encore en pleine shape, ça me paraît un peu trop facile à ce niveau-là, niveau championship. Bon, au final, beau shrimp à la fin de Royval avec un petit technical stand-up, vraiment tout simpliste. Et ça, c'est plus la facette que j'aurais voulu voir de Royval avec vraiment de la base dans le grappling, un game plan pour éviter des séquences vraiment compliquées. Ça aurait été de très bon augure pour le flyweight américain. Round 2, Pantoja pousse la lutte contre la grille. Royval, lui, essaie de repartir forcément au milieu. Royval, là, encore une fois, veut timer un knee, mais squatte trop dans la poche. Alors, ça va très très vite. Hein. Pour vous, ça peut paraître genre un quart de demi-seconde. Mais à la fin, il aurait dû envoyer ce knee d'un peu plus loin, revenir avec sa jambe derrière lui et essayer de rester les mains, genre aussi prête à descendre pour pouvoir aller se prôler. Mais là, Pantoja a directement connecté avec les mains derrière. Il a trippé Royval et il s'est retrouvé sur le dos. Il reste 3 minutes 40. Pantoja finit par passer encore une fois la demi-garde vers le side control. C'est compliqué. C'est ça que je vous dis. C'est la défense aussi. C'était pas bon. Certes, il y a de grandes chances que vous vous retrouviez en demi-garde quand vous faites mettre au sol. Mais le mieux, c'est d'essayer de défendre cette demi-garde, récupérer sa garde et évidemment, éventuellement se relever. Hein, on a un peu trop le fantasme de passer un triangle depuis le dos, etc. Il y en a qui sont capables de le faire, mais en MMA, c'est compliqué quand il y a de l'activité au-dessus. Hein, surtout comme Pantoja qui, lui, charbonne énormément quand il est au-dessus. Et même, comme je vous le dis, de cette demi-garde, il est passé vers ça de contrôle. Au final, Royval récupère sa garde et se relève. Il reste une minute. Hein, donc, il aura donc passé la moitié du round sur le dos. Il se fait connecter en plus derrière. Au premier échange, pleine proie, et on le voit vraiment croiser les jambes en reculant après ce coup-là. C'est très mauvais signe pour un fighter de le voir croiser les jambes dans ses déplacements. C'est dur. Les déplacements de Royval commencent à être hasardeux. Il envoie un kick non préparé, et bam, il se refait mettre au sol directement face au champ. C'est directement la punition, un kick non préparé comme ça. C'était mauvaise idée. Voilà, deux rounds dans la poche pour Pantoja. Troisième round. Royval parvient à catcher un kick mais ne parviendra pas à finir ce single leg. C'est ces moments-là qui font clairement la différence entre celui qui garde la ceinture et celui qui a essayé d'aller la chercher, qui n'avait pas le niveau par rapport au champion pour récupérer cette ceinture. Royval envoie un low kick à Pantoja, qui Pantoja, genre il va le catcher, il descend directement low, passe un double leg et encore une fois, takedown de Pantoja. Royval est encore au sol, Pantoja prendra même le dos à un moment donné. Il est un peu trop haut, il perd la position, on repart debout. Pantoja paraît un peu usé dans le troisième, ça je vous l'avoue. Mais le grind est toujours là, hein. Toujours il charbonne et gros taf contre la grille. Royval, je trouve, n'a pas profité assez du centre de l'octogone, alors que Pantoja semblait largement baissé de régime. Quelques belles connexions, hein. Je ne dis pas qu'il ne l'a pas touché, il l'a touché. Pantoja était un peu dans le rouge à un moment donné, mais justement, hein, Royval n'a pas créé de momentum fort après avoir eu ses connexions avec ses mains. Puis, il se laissera pousser contre la grille et bizarrement, il se fait encore amener au sol. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Alors là, je pense que c'est le round que Royval a gagné. Mais encore une fois, tous ces takedowns-là, c'est synonyme de la défaite de la soirée pour Royval. Round 4, amené au sol sur le premier échange contre la grille, prise de dos même. Hein. Royval n'est pas vraiment endagé pendant de longs moments. Juste sur une tentative, on va dire, de rear naked choke pour Pantoja, mais qui a été bien défendu par Royval. Round pris encore. Hein. Là, on est à 3-1 maintenant pour Pantoja. Royval arrive à s'échapper et passera même au-dessus pour les 30 dernières secondes, mais c'est clairement trop tard. Round 5, Royval avance, jab, essaie de placer des crochets. Pantoja a l'air exténué, mais Royval n'est pas vraiment en forme non plus. Lui, il pousse, c'est bon, mais Royval, je vois qu'il lui manque le power dans la main. Il n'a plus le jus, il n'a plus l'énergie. Je ne crois plus au finish. Pantoja, évidemment, cherche le clinch. Royval n'a plus vraiment la lucidité pour passer les combis, je trouve, qui finirait le combat. Pantoja, lui, à un moment donné, évidemment, va vouloir shooter. Il fonce menton en avant. Il se fait counter, hein, une belle connexion de la part de Royval. Mais il n'y a pas de power, hein, c'est trop mou. Pantoja passera le takedown et on est encore dans la demi-garde. Et on continue encore et encore. Et Pantoja is still the flyweight champion of the world. Bravo, Brésilien. Hein, franchement, performance de champion, parce que je vous le dis, dans le troisième, on le sentait un petit peu dans le moins, et je pense que Royval aurait pu tourner le combat à son avantage à ce moment-là. Si on oublie le combat au complet, ce qui ne fait aucun sens, mais si on oublie, comme je vous le dis, hein, le fil rouge des takedowns qui n'ont pas été défendus de la part de Royval, etc., s'il y avait le moment, hein, sur lequel il aurait pu profiter, c'était ce momentum qui n'en est au final pas vraiment un. Dans le troisième, quand on était debout et que Pantoja se faisait fracasser la face. C'était pas assez. Pas assez pour Royval. Pas assez de défense de takedown et derrière, pas assez de défense de passage de garde. Quoi. Certes, vous me disiez, ouais, mais Pantoja, elle a rien fait au-dessus. Bah, Pantoja, elle est restée active. Certes, je connais les nouvelles règles, mais à un moment donné, quand tu te retrouves genre 3-4 minutes sur le dos, et que l'autre, il n'a pas vraiment mid damage, à part dans ce fameux troisième round, bah, tu le perds le round quand même, quoi. C'est, je veux dire, elle a perdu ses rounds, donc c'était pas assez au niveau de la défense des takedowns et de la défense au sol, de l'activité au sol, c'était pas assez bon. Et le meilleur grappleur à gagner ce soir, c'est Alexandre Pantoja. Bravo, bravo champion. Première défense pour Pantoja et puis haut la main quand même. Hein. Après, je vous le dis, il y avait peut-être un mismatch-up. Mais voilà, Royval méritait son title shot. C'est absolument pas ce que je veux dire. Je le suis depuis longtemps au UFC. J'ai regardé beaucoup de ses combats. Il a performé contre des très forts. Quand il a perdu, c'était aussi contre des très forts. C'est un gros compétiteur et c'est un gars qui mérite d'être là où il est. Malheureusement, il a été beaucoup moins fort dans le grappling que Alexandre Pantoja. On continuera de le voir grinder, puis Pantoja, ben, belle défense, ça c'est nice, et on a un champion qui a défendu sa ceinture. Je pense que ça, évidemment, c'est quelque chose qui tient à cœur de tous les champions, c'est d'être capable de défendre cette ceinture. Pantoja l'a déjà fait, bravo à lui. Bon, et puis le fil rouge de la soirée en lui-même, c'est un peu les match-up foireux, quoi, là, j'ai été vocal là-dessus, je pense que vous comprenez mon point, là. Leon Edwards versus Colby Covington. Colby Covington, 2 ans, quelque chose comme ça, c'est un combat. J'ai pas envie de regarder parce que je suis tanné de Colby, parce que Colby Covington, c'est le vide. C'est le vide et je n'ai absolument pas de haine sans fondement face à Colby Covington. Je m'en fous de son perso, etc. C'est genre, c'est juste des points logiques qui font que ce mec n'a aucun intérêt à être dans le paysage au niveau du UFC. Mais contrairement à Paddy, même si Paddy a dérapé à plusieurs reprises sur des trucs dégueulasses, Colby Covington, lui aussi, mais lui c'est trop souvent et c'est tout le temps et il combat pas. Donc c'est tannant parce que il méritait pas forcément cette place-là. Il l'a mérité quand il était contre Ousmane et puis on avait des belles guerres contre Ousmane. Il y a eu des beaux moments où on était debout et où on se mettait sur la gueule et ça faisait plaisir. Et puis là, à ce moment-là, ben Colby, son rôle de vilain, de méchant, de connard était justifié. Là maintenant, t'es juste un gars qui est loud, qui casse la tête, qui fait rien de spécial. Tes lignes sont pourries. Et le fait que tu ramènes des morts tout le temps, ça c'est pas la première fois que tu le fais, et puis c'est vraiment malsain, c'est pas drôle, et ça ne ramène rien de positif ou de entertaining, et ça c'est saoulant. Leon Edwards, lui, de son côté, c'est plus le gars qui, ben justement, lui, il n'a pas forcément eu pendant un long moment l'occasion de montrer sa vraie valeur, et puis à partir du moment où il a gagné, ben là, tout a changé pour lui. On ne l'entend pas tant que ça. C'est un gars qui, même si Colby Covington veut s'en moquer, c'est un gars qui était dans la pauvreté pendant longtemps et qui n'a pas eu forcément une éducation qui lui permet, pardon, de s'exprimer de la meilleure des manières. C'est aussi pour ça qu'il est un peu plus timide et distant, mais je trouve que maintenant dans les médias, il est très bon. Colby Covington, lui, est à chier dans les médias parce que c'est vraiment. C'est un mauvais Instagrammeur, on va dire, Colby Covington, c'est un combattant qui fut à un moment mérité sa place là où il l'était, qui dérangeait beaucoup de combattants, qui gagnait tout simplement, même si c'était pas contre les meilleurs, c'était quand même contre des classés, hein. Donc je veux dire qu'il avait sa place au niveau de la compétition dans le top 10, top 5. Maintenant, là où il en était hier, samedi 16 décembre, il n'était pas à sa place. Il n'était pas à sa place et ce qu'il a montré dans la cage justifie ce que je suis en train de vous dire. C'est que le mec n'avait pas sa place. Dans le sens où il n'a rien branlé pendant 3 rounds. C'est le gars qui parle beaucoup mais qui ne fait pas grand-chose. Vraiment, clairement. Il parle pour pas dire grand-chose, il parle pour dire de la merde. Et ses actions dans la cage sont d'un ennui abyssal pour ce combat face à Leon. Leon, lui, il a fait sa job. Tu peux pas lui en vouloir. On lui donne Colby, il le prend. Après, il dit peut-être, ouais, j'aimerais bien passer à 185 et tout ça. Ça, c'est un autre débat. Et c'est mauvais de la part des combattants, je pense, d'être obsédé avec forcément passer sur la catégorie au-dessus, etc. Ça, c'est le petit point noir. Mais à part ça, genre, on lui donne un welterweight, il le prend, c'est tout. Il a pas eu le combat, je pense, auquel il s'attendait. Je pense parce que Colby, moi je l'imaginais genre soit vraiment genre y aller en mode fuck it, je reste debout et on va échanger avec les points comme il avait fait avec Ousmane, mais Leon Edwards est plus un kickboxer que les deux, hein, que Colby et Kamaru. On se dit, bon, ça va peut-être être l'autre plan, savoir tu vas grinder contre la cage, tu vas aller faire de la lutte, tu l'as fait plusieurs fois et t'as battu énormément de gens comme ça et t'as été très bon là-dedans, mais là tu ne l'as juste pas fait. Donc, ces 3 rounds de néant sont incompréhensibles, injustifiables et d'autant plus énervants et éreintants, quoi, face au personnage qu'est Colby Covington. Qu'est-ce qu'on peut trouver de positif? Comment on peut justifier sa présence après ce putain de combat? Il n'y a rien. Du vent, de la vomi médiatique, du vomi médiatique. Vraiment, quoi. C'est à chier et c'est tout ce qu'il y a de mauvais avec le UFC. C'est tout autorisé parce que hein, c'est pas les méchants médias et les méchants démocrates qui vont nous couper notre liberté, notre façon de parler, bien sûr, parce que hein, c'est ça la liberté, hein, c'est de pouvoir dire ce qu'on veut, mais aussi de dire des saloperies, ça c'est correct aussi. Je vais repasser dans le combat. Je vais pas m'écarter. J'ai déjà eu une rant sur David Goggins. Il a pris son savon. Je m'arrête là. On repasse dans la cage. Premier round, Leon avance contre Colby. Il veut le mettre contre la cage. Quelques jabs pour jauger la distance. Colby est prudent. Garde sa garde vraiment haute. Rocky passe quelques feintes. Et puis déjà, il y a des réactions de Colby Covington. Je l'ai déjà vu baisser sa garde brièvement. On était dans la première minute du premier round. C'est mal parti. Colby fuit trop en avant sur ses single punch, tandis que Leon low kick tranquillement. Colby tourne autour d'Edwards avec une garde haute avec des 1-2 timides. Leon Edwards, tranquille, gère le combat. Round 2. Leon libère un peu plus ses combis, pousse toujours vers la grille, patience et discipline. Il cherche à ouvrir le côté droit de Colby. Hein. C'est pour, je pense, loader cette main gauche ou alors, comme il l'avait fait face à Woodsman, placer ce high kick en switch kick. Rocky bouge toujours bien pour ouvrir ses angles, ça j'aime beaucoup ses déplacements. Leon change les niveaux sur les low kicks, hein. La jambe droite, j'ai l'impression qu'elle pourrait être morte dans les championship rounds au final. Il aura banqué et il aura bien fait de continuer sur ses low kicks. Clairement, je pense que ça aussi, ça a un peu éteint tranquillement Colby Covington. Ça n'enlève en rien de ce que j'ai dit en introduction d'analyse de ce combat. Leon change de stance aussi, ça c'est vraiment pas mal. Toujours actif dans son approche du combat pour aller vers son adversaire. Colby accepte à 100% de perdre ses deux premiers rounds. Pour un combat, pour une ceinture, ça ne fait aucun sens. Round 3, son corner essaie de lui demander des réponses face au crochet de Leon. Soit tu envoies un genou, soit tu shoots un kickdown. Fais quelque chose. Pour le moment, c'est très très faible. Edwards travaille toujours la jambe droite de Colby. Ça devient violet. Premier shoot de Colby Covington, pas si mal. On se retrouve contre la grille. Leon écarte son stance pour proler, mais passe bêtement sa jambe au-dessus du dos de Colby. Et ça, c'est la première petite erreur du champion welterweight. Il essaie évidemment, en passant cette jambe au-dessus, d'aller chercher une prise de dos, mais c'est vraiment foireux la façon dont c'est fait. Ça a été très improvisé, vraiment pas pensé à technique sur ce coup-là. Ça peut pas marcher, hein, surtout si Colby a le body lock. En étant sur ses genoux, il finit ce takedown, Leon est sur le dos, il reste 3 minutes, mais Leon répare son erreur. Ça m'a énormément plu, et ça aussi, c'est un moment de champion. Sort de sa garde, shrimp et technical stand-up, move de ceinture blanche exécuté parfaitement. C'était simple, parfait, efficace et ça l'a remis en sécurité. Et en plus, il a placé un beau high kick en sortie. C'est ça aussi, un champion, c'est en puni en sortie. C'est toi qui veux gagner l'échange à la fin. C'est toi qui mets le dernier coup. C'est toi qui va faire mal, c'est toi qui fais un statement. Edwards va shooter d'ailleurs derrière pour amener Colby au sol. Ça, c'est le statement du champion. Il le laisse se relever. C'était juste un statement. Look at me, I can do it. I'll do it too. I'll do it better than you. Pas besoin d'alpha speech de merde. Parlez dans la cage, les amis. On parle dans la vie, on parle avec les actions. On n'a pas besoin d'ouvrir sa gueule tout le temps pour rien dire. Colby s'oblige à catcher un low kick de Leon. Attention, hein, ça. Hein. Catcher des low kicks face à des kickboxers, c'est très dangereux. Hein. Il suffit d'une petite feinte pour aller vers un high kick et vous éteindre la tête avec un coup dans la tempe. Hein. On l'a vu, évidemment. Attention face à Leon. Les low kicks de Leon sont tellement plus enthousiastes que ceux de Colby. Je trouve que c'est plus fort, plus rapide, mieux exécuté, évidemment. Ça paye plus un coq et un poussin dans la cour à la fin du round 3. Round 4, Colby shoot dès la première minute. Edwards tente un ninja choke debout. Colby part en courant, littéralement. Colby ressemble de plus en plus à une proie contre la grille. Cette main gauche toujours bien préparée pour Leon, quand ça connecte, ça fait mal, et c'est plutôt pas mal. Super gestion de combat pour Leon. Colby shoot en courant après des 1-2 en fuite. On est contre la grille, ça défend bien, on sort de la grille. Ses front kicks au corps sont vraiment pas mal pour Leon aussi. Colby lance enfin des mains, hein, mais ferait mieux de brawler plutôt que de shooter contre la grille, quoi. Parce que même si Leon fait des petites erreurs au sol, il parvient toujours à corriger ses mauvaises décisions en se relevant. On est dans le détail, les amis. Mais au plus haut niveau, il faut être dans le détail. C'est le meilleur round pour Colby, mais je vois malgré tout 4 rounds pour Leon. Round 5, ou alors 3 au moins, du moins, mais 4 pour Leon. Round 5, très beau single leg de Colby. Il veut le dos de Leon, mais Rocky ne se laisse pas passer les crochets et se lève pour remettre Colby au sol. Il a un crochet et le dos de Colby, même si l'angle n'est pas forcément bon. C'est encore une fois une position avantageuse au sol pour Leon Edwards. Colby se retourne et se retrouve pogné dans un triangle et doit s'échapper de la suite pour se retrouver au-dessus de la garde de Leon. Alors, Colby est plus entreprenant à ce moment-là, mais c'est bien trop tard. On est avancé dans le cinquième déjà. Et je dois avouer que la capacité de Colby, hein, à soumettre quelqu'un est quasi nulle, je pense, hein, parce que je l'ai vu plusieurs fois dans d'autres combats. Pareil, hein, il s'est retrouvé avec le dos de son adversaire, etc. Mais c'était genre, on jouait à se toucher les mains. Je le vois absolument pas passer une rear naked choke à quelqu'un, à part à l'entraînement. Hein, ça, c'est absolument pas jugé, encore une fois, hein, je vous le dis, c'est de la pure analyse sur les combats que j'ai vus de Colby et sur plusieurs lutteurs. C'est qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à être créatifs au sol et finir. Hein, je vous en ai déjà parlé. Colby lève les bras à la fin du round. Hein, bravo, tu as gagné un round. Tu as gagné un round et tu t'es battu deux rounds. Ça ne valait absolument pas un championnat. Mon rant a été fait au début. Mon deuxième rant, hein, de ce podcast aujourd'hui, je vous régale, c'est extra vieux aujourd'hui. Voilà, absolument pas mérité d'être là, je le dis. Ça ne valait absolument pas un championnat. Bravo à Leon qui, lui, s'est battu vraiment correctement. Il a stické au game plan, mais c'était un peu walk in the park, quoi, pour Leon. Parce que quand on te donne trois rounds sur un plateau comme ça, et que toi, tu as l'habitude de faire des cinq rounds, et que tu t'es vraiment fait lutter face à Ousmane, bah, du moins un combat complètement perdu par la lutte par Leon Edwards, avec évidemment ce Hail Mary à la fin du cinquième round, dans les dernières secondes. Mais je veux dire, il a vraiment eu l'expérience de se faire rincer par un lutteur. Alors là, évidemment, le fait que Colby ne lutte pas pendant trois rounds, c'était du pain béni pour Leon Edwards, quoi. Vraiment, c'était trop facile. Trop facile. Et dégoûté d'avoir gâché un autre fucking title shot qui devait aller, je pense, à Bilal, pour le donner à Colby. Et puis maintenant que la suite, hein, chez les Welters, c'est compliqué. Shavkat s'en vient, mais Shavkat a gagné contre Wonderboy. Shavkat est pas peut pas aller directement au title shot là. Est-ce que l'UFC rajoute encore une crasse à Bilal et lui donne Shavkat? Franchement, le mec a tellement la poisse pour avoir un titre que ça pourrait être ça, quoi. Alors qu'une revanche face à Lyon, alors qu'il y a eu un high poke et que ça s'est arrêté prématurément, je pense que c'est ce qui ferait le plus de sens. Et mettez Sean Brady face à Shavkat. Une vraie guerre, une grosse bataille, trois rounds de bonhomme. Mettez-moi ça, le UFC. Merci à vous pour cette écoute. C'est le dernier épisode du UFC de l'année 2023. La semaine prochaine, vendredi, c'est One Friday Fights 46 avec du très très lourd. Enfin, on a Tawan Chai versus Superbonne. Alors, pour ceux qui aiment le pied-point, je vais faire un épisode. Je vais regarder les combats et dans la suite, je vais faire un épisode avec, normalement, si tout se passe bien, mais je pense que c'est bien parti, avec un invité qui n'est jamais venu sur le podcast et je suis super content de l'avoir. Il va y avoir des beaux combats. Le retour d'Anissa Mexon aussi pour une ceinture intérimaire chez la Atomweight. Bah, ça va être bon. Ça va être fucking bon. Ce sera le dernier podcast audio analyse de combat pour le Guillotine la semaine prochaine. Ce sera l'épisode 114, mais il y aura une dernière vidéo qui va sortir sur la chaîne YouTube aussi. Ce sera un tournoi de grappling Montreal Quintet. Ah, voilà, le format était vraiment fun, c'était cool. On s'en reparle bientôt, j'en parlerai sur les réseaux vite fait. Suivez-moi sur Instagram, @guillotine underscore podcast, sur Twitter, @guillotine514, sur TikTok, @guillotine.podcast. Merci à tous, ciao les amis, bye. At the end of the day, it is what it